Bonjour, aujourd'hui nous recevons le docteur Lara Zafrani qui est MCUPH en réanimation médicale à l'hôpital Saint-Louis pour évoquer le sujet des micro-angiopathies thrombotiques. Bonjour docteur Zafrani, pour commencer, pouvez-vous nous dire quand doit-on évoquer le diagnostic de micro-angiopathie thrombotique en réanimation ?
Bonjour, donc la micro-angiopathie thrombotique c'est un syndrome qui va se définir par l'association d'une anémie hémolytique mécanique et d'une thrombopénie périphérique. La présence de défaillance d'organes secondaires aux thromboses microvasculaires dans certains organes va conforter le diagnostic, même si ce n'est pas obligatoire.
D'accord. Donc, à partir de là, quelle est la démarche diagnostique que l'on doit suivre pour confirmer le diagnostic une fois qu'il est évoqué ?
Donc, pour confirmer le diagnostic de micro-angiopathie thrombotique, il faut donc qu'on ait une anémie régénérative hémolytique, donc avec des LDH augmentés, une haptoglobine effondrée, une bilirubine élevée, libre, une thrombopénie, et puis c'est une anémie hémolytique qui est mécanique, donc avec la présence de schizocytes sur le frottis sanguin et un test de Coombs qui est négatif. Une fois qu'on a diagnostiqué une micro-angiopathie thrombotique, il va falloir classer les syndromes de Mott. Et on va dire que le plus important à connaître pour les réanimateurs en raison de l'urgence thérapeutique, c'est le PTT, le purpura thrombotique thrombocytopénique, qui est lié à un déficit sévère en ADAMTS13, donc la métalloprotéase présente normalement dans le plasma et dont la fonction est de cliver les méga-multimères de facteur von Willebrand. Donc toute la classification des MAT va reposer maintenant sur leur mécanisme physiopathologique et notamment la présence ou non d'un déficit en ADAMTS13. Donc il y a les syndromes de MAT à ADAMTS13 indétectable, c'est donc le PTT, et puis les syndromes de Mott à ADAMTS13 détectables, et là, on va avoir le syndrome hémolytique et urémique, le HELLP syndrome de la femme enceinte, l'hypertension artérielle maligne, les Mott associés au cancer et transplantation. Donc toute la démarche diagnostique va permettre de ne pas passer à côté d'un diagnostic différentiel, d'affirmer le diagnostic de PTT et d'évaluer les atteintes d'organes associées. Donc c'est une démarche qui est à la fois clinique et qui va nécessiter un certain nombre d'examens complémentaires. Donc on a diagnostiqué une MAT, il faut donc évoquer le PTT, on dose l'activité ADAMTS13 et si elle est inférieure à 10%, on diagnostique donc un PTT. On recherche en même temps dans le plasma la présence d'anticorps anti-ADAMTS13 pour le PTT auto-immun, en sachant que les anticorps anti-ADAMTS13, on les a beaucoup plus tard. Si on suspecte un PTT dans le cadre du bilan étiologique d'un PTT auto-immun, on va systématiquement demander à l'interrogatoire et rechercher à l'examen clinique une maladie de système. Donc, est-ce qu'il y a une photosensibilité, un syndrome de Raynaud, un syndrome sec, des arthralgies? Et en première intention, on demande un dosage du complément, des facteurs antinucléaires et des anti-DNA natifs. Le PTT congénital peut se révéler, mais beaucoup plus rarement à l'âge adulte, et on ne demande pas en première intention le séquençage du gène ADAMTS13. Une fois qu'on a évoqué le PTT, il y a tous les autres diagnostics différentiels, les autres MAT. Donc il y a les MAT secondaires aux médicaments. Donc à l'interrogatoire, il faut bien rechercher tous les médicaments qui sont pourvoyeurs de MAT, comme par exemple les inhibiteurs des calcineurines. Il faut éliminer une anémie hémolytique auto-immune ou un syndrome d'évance par le test de Coombs. Il faut toujours demander un bilan d'hémostase qui n'a pas de coagulation intravasculaire disséminée dans le PTT. Dans le cas d'une grossesse, on va demander les bêta-HCG. En général, il y a un contexte, notamment dans le HELLP syndrome. Mais parfois, il arrive qu'on ait d'authentiques PTT ou syndrome hémolytique urémique chez la femme enceinte. Si on suspecte une hypertension artérielle maligne chez un patient qui est très hypertendu, il ne faut pas hésiter à faire le fond d'œil. L'autre diagnostic différentiel du PTT qui peut donner des syndromes de Mott, c'est le syndrome catastrophique des antiphospholipides. En général, il y a un contexte de thrombose ou de fausse couche. Et puis, en retour d'une zone d'endémie palustre, devant une anémie hémolytique et une thrombopénie, on fait systématiquement un frottis goutte épaisse. Enfin, le dernier diagnostic qui est un peu plus difficile, c'est le cancer, puisque certains cancers, avec notamment des métastases médulaires, donnent des vrais syndromes de Mott. Et le diagnostic, en général, se fait au myélogramme ou à la biopsie ostéomédulaire. Attention encore une fois, le piège, c'est qu'il y a certains d'authentiques PTT qui peuvent s'associer à des cancers. Mais encore une fois, pour distinguer les deux, dans le PTT associé au cancer, là on aura l'ADAMTS13 basse. Alors que dans le cancer avec des métastases médulaires qui donnent des micro-angiopathies thrombotiques, l'ADAMTS13 sera normal. Le traitement va être complètement différent. Enfin, si on suspecte un syndrome hémolytique et urémique avec notamment une atteinte rénale au premier plan, il faut rechercher s'il y a un contexte de diarrhée, un Escherichia coli producteur de chigatoxine dans les selles. Et puis, s'il n'y a pas de contexte de diarrhée, des anomalies de la voie alterne du complément pour le CHU atypique. Donc ça, c'était pour orienter le diagnostic étiologique de la microangiopathie thrombotique. Maintenant, il faut systématiquement regarder et rechercher les défaillances d'organes qui peuvent être secondaires aux microangiopathies thrombotiques et surtout au PTT. L'atteinte cérébrale, qui est souvent caractérisée par son apparition brutale et sa fugacité, et qui peut tout donner d'un point de vue de la symptomatologie clinique. On peut compléter éventuellement par une IRM cérébrale en fonction de la clinique. L'atteinte cardiaque, elle doit aussi systématiquement être recherchée par un électrocardiogramme et une troponine tous les jours, sachant que l'augmentation même minime de la troponine est un facteur prédictif indépendant de mortalité au cours du PTT. Et puis, l'atteinte rénale au cours du PTT, elle est moins sévère qu'au cours du syndrome hémolytique urémique, mais elle existe et elle est parfois assez fréquente. Et puis, il peut y avoir éventuellement des atteintes digestives et pancréatiques. Donc au final, on va dire que la pierre angulaire du diagnostic va être donnée par la dame TS13, en sachant que la dame TS13, on l'aura que 3 ou 4 jours après le prélèvement et que donc la démarche clinique initiale est quand même très importante.
D'accord. Et donc, une fois le diagnostic de microangiopathie thrombotique posé, quel est le traitement en urgence qu'il faut instaurer en réanimation ?
Alors, on va dire que l'urgence thérapeutique pour le réanimateur, c'est le PTT, surtout en raison du risque cardiaque. Si on a éliminé une cause évidente de MAT secondaire et que le diagnostic de PTT est plausible, on n'attend surtout pas le résultat de la dame TS13 avant de débuter le traitement, qui est une urgence thérapeutique. Et on essaye de transférer le plus rapidement possible le patient en centre expert et en SAMU. Donc, il va falloir débuter les échanges plasmatiques qui vont permettre d'une part de restaurer le facteur déficitaire avec l'apport d'Adam TS13 et de soustraire un éventuel facteur inhibiteur, notamment un anticorps anti-Adam TS13. Les échanges plasmatiques, ils font beaucoup mieux que la perfusion de plasma simple, car ils permettent d'apporter de plus grandes quantités de plasma en évitant la surcharge hydrosodée. Mais par contre, si la technique elle n'est pas disponible immédiatement et le temps du transfert, il vaut mieux prélever un bilan, prélever la dame TS13 et démarrer rapidement la perfusion de plasma. Les échanges plasmatiques ils doivent donc être administrés avec un volume plasmatique échangé de à peu près 1,5 fois la masse plasmatique, soit environ 60 kg. En faisant bien attention de mettre comme liquide de substitution du plasma. Donc ça, c'est le traitement en urgence, en sachant que les patients vont être échangés quotidiennement avec un minimum de 2 jours après la remontée des plaquettes au-dessus de 150 000. Dans le PTT, à qui le mécanisme auto-immun du PTT peut inciter à proposer une corticothérapie en l'absence de contre-indication. Les corticoïdes sont dans les recommandations 2012, soit en bolus, soit 1 mg kilo jour, même si le niveau de preuve est assez faible. Par ailleurs, on supplémente les patients en folate puisqu'ils hémolysent. Il faut contrôler la tension avec un contrôle tensionnel strict puisque l'hypertension aggrave la microangiopathie thrombotique. Et l'autre chose à savoir, importante pour les réanimateurs, c'est qu'il ne faut pas transfuser ces malades en plaquettes puisque ça aggrave les thromboses microvasculaires. Donc pour conclure, les deux messages importants, c'est qu'il faut débuter les échanges plasmatiques en urgence dans un centre expert, mais surtout prélever le bilan avant, et notamment l'ADAM TS13, en sachant qu'il ne faut pas le prélever sur un tube EDTA, mais sur un tube gélosé jaune ou éventuellement un tube citraté.
Parfait, merci docteur Zafrani. Et maintenant, si vous deviez conseiller 3 articles de référence qu'il est nécessaire d'avoir lus sur le domaine de la microangiopathie thrombotique en introduction de cette problématique.
Donc les 3 articles que je conseillerais, c'est la revue du New England en 2014 de James George sur les syndromes de MAT qui reprend bien la classification des MAT en fonction de leur physiopathologie. Le deuxième, c'est l'article d'Eric Marriott publié en 2016 dans Lancet Hématologie qui reprend sur une large cohorte multicentrique française de PTT l'épidémiologie et la physiopathologie de ces PTT à l'âge adulte. Et puis, la troisième, c'est les recommandations de la Société britannique d'hématologie sur le diagnostic et la prise en charge des MAT, qui a été publiée dans le British Journal of Hematology en 2012, et dont le premier auteur est Marie Scully.
Merci, docteur Zafrani. Et maintenant, si vous deviez conseiller la spécialité MIR à l'un de nos jeunes collègues, pour pourquoi faut-il choisir MIRE à l'heure actuelle ?
Moi, je dirais que la réanimation, c'est quand même une spécialité très polyvalente, que quand on en a marre de faire de la néphrologie, on peut faire de la pneumologie, on peut faire de la cardiologie, on peut faire de l'infectieux, avec un spectre un peu particulier qui est celui de la réanimation, que finalement, il y a très souvent un challenge diagnostique, un impact thérapeutique important. Et puis que c'est assez difficile de s'ennuyer en réanimation, que je ne connais pas beaucoup d'internes qui s'ennuient quand ils passent en réanimation.